Biographie de la faim, CD numéro 2.
À l'aéroport, je souffrais tellement d'avoir perdu ma mère japonaise que je remarquais à peine le moment où le sol natal cracha notre avion vers le ciel. Le postillon aérien traversa la mer du Japon, la Corée du Sud, la mer Jaune, puis atterrit à l'étranger, en Chine. Je dois préciser que tout pays autre que celui du soleil levant fut depuis ainsi qualifié par moi. Il n'empêche que la Chine populaire de 1972 y mettait vraiment du sien. C'était l'étranger. Étranger était cet univers de terreur et de suspicion permanente. Si je n'eus à subir aucune des atrocités que le peuple chinois endura pendant cette fin de révolution culturelle, si mon âge tendre m'isola du haut le cœur incessant qu'éprouvèrent mes parents, je n'en vécus pas moins à Pékin comme dans l'œil du cyclone. D'abord, pour une raison personnelle. Non seulement ce pays avait le tort de ne pas être le Japon, mais il poussait le vice jusqu'à être le contraire du Japon. Je quittais une montagne verdoyante et je trouvais un désert, celui de Gobi, qui était le climat de Pékin. Ma terre était celle de l'eau, cette Chine était sécheresse. L'air d'ici était douloureux à respirer tant il était aride. Mon exil de l'humidité se traduisit immédiatement par la découverte de l'asthme, dont je n'avais jamais souffert auparavant et qui devait être le fidèle compagnon de toute une vie. Vivre à l'étranger était un mal respiratoire. Ma terre était celle de la nature, des fleurs et des arbres. Mon Japon était un jardin de montagne. Pékin était ce que la ville a inventé de plus laid, de plus concentrationnaire en matière de béton. Ma terre était peuplée d'oiseaux et de singes, de poissons et d'écureuils, chacun libre dans la fluidité de son espace. À Pékin, il n'y avait d'animaux que prisonniers, des ânes lourdement chargés, des chevaux solidement attelés à des charrettes énormes, des cochons qui lisaient leur mort prochaine dans les yeux d'une population affamée à laquelle nous n'avions pas le droit d'adresser la parole. Ma terre était celle de Nishio-san, ma mère nippone, qui était tendresse, bras aimants, baisers, qui parlait le japonais des femmes et des enfants, lequel est la douceur faite parole. À Pékin, la camarade Trey, qui avait pour seule consigne de me tirer les cheveux le matin, parlait la langue de l'époque de la bande des quatre, sorte d'anti-mandarin qui était aux Chinois ce que l'allemand de Hitler était à celui de Goethe. Une perversion immonde aux consonances de baf dans la gueule. Loin de moi l'idée absurde de placer de fines analyses politiques dans le jugement d'une enfant de 5 ans. L'horreur de ce régime, je ne la comprendrai que bien plus tard, en lisant Simon Less et en faisant ce qui, à l'époque, était interdit, parler avec des Chinois. De 1972 à 1975, adresser la parole à l'homme de la rue équivalait à l'envoyer en prison. Mais j'avais beau ne pas comprendre, je vivais cette Chine comme une longue apocalypse, avec toute l'abjection et la joie contenues dans ce mot. L'expérience apocalyptique est le contraire de l'ennui. Qui voit s'effondrer le monde se désole autant qu'il s'amuse. C'est un spectacle que l'abomination permanente, c'est un jeu tonique qu'un naufrage. Surtout quand on a de 5 à 8 ans.